Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible et pour ce faire, eh bien, on va faire une lecture. On va faire deux lectures, mais enfin, elles sont toutes simples, courtes. Une première lecture, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 42. Voilà. On va commencer comme cela. C'est une petite parole de Jésus. Alors, je rappelle, Matthieu, chapitre 12... Verset 42, la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Je voudrais simplement marquer le fait de cette dernière expression où Jésus dira, à la suite de cette venue de cette grande reine de Saba, qui était venue entendre la sagesse de Salomon, il est dit, et Jésus ponctuera, il dira, voici, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Maintenant, nous allons nous retourner vers le livre des rois, 1 roi, chapitre 11. 1 roi, chapitre 11. J'ai fait une erreur. Chapitre 10. Je me disais, ça n'existe pas. Ou ça ne correspond pas à ce que je voulais lire. Voilà. Alors, 1 roi, chapitre 10, verset 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Eh bien, que Dieu nous bénisse à travers notre lecture ce matin, et j'aimerais justement développer ce passage dans une exhortation. Le caractère de notre parole ce matin, ce sera beaucoup plus une exhortation, et nous allons découvrir un peu ce que peut suggérer cette parole, il y a ici plus que Salomon, et puis son histoire aussi à cet homme, brièvement. Il y a une prière inspiratrice de bonne volonté, je dirais, de bonnes intentions dans la Bible, dans le livre des Proverbes, où il est dit ceci, et vous la connaissez, « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie, ou que dans la pauvreté je ne m'attaque au nom de mon Dieu. » L'histoire de Salomon est à la fois glorieuse, car elle représente, et vous le savez, nous en avons parlé il y a quelque temps, l'idéal du bonheur humain. Oui, Salomon. Salomon et tout ce que cela peut comporter dans l'histoire de sa vie, tout ce qui nous est rapporté. Mais c'est une histoire glorieuse, mais aussi elle a un aspect très sombre. Elle est, dans certains aspects, pitoyable, car elle illustre ceci en guise d'avertissement, et je vais donner cette parole. Un homme peut monter bien haut dans l'échelle de la réussite terrestre, et même avec la bénédiction de Dieu, parce que ce n'est pas exclu, c'est ce que nous suggère la deuxième lecture que nous avons faite, et descendre bien bas. Et ça concerne tout le monde. Salomon était un homme d'une envergure formidable. Ce n'était pas un païen, c'était un homme de Dieu. C'était un homme qui avait été placé d'une manière providentielle par Dieu dans sa position. Mais on apprend aussi dans ce raisonnement que plus on tombe de haut, eh bien plus la chute est ressentissante. Et ça, je crois que c'est un peu le thème de notre méditation et c'est exhortatif ce matin. Il y a un proverbe populaire qui dit que quand les ailes poussent à la fourmi, c'est pour sa perte. Alors probable qu'il y a eu vérification du fait que quand la fourmi reste sur la terre, eh bien là, c'est sa vie, c'est sa condition, c'est son habitat. Mais à partir du moment où elle va prendre des ailes, eh bien elle est peut-être en proie à tous ces prédateurs qui sont autour d'elle, et puis toutes sortes de choses. Et je peux penser que ça correspond véritablement à ce que nous allons dire ce matin. La Bible nous donne une leçon de sagesse. Et je crois qu'on parle souvent de puissance, mais nous avons besoin aussi de parler de sagesse. Et je dirais que la vraie puissance, c'est celle qui s'inscrit dans la sagesse de Dieu. Parce que la puissance sans la sagesse, la puissance sans le bon sens spirituel, eh bien ça peut aller très loin. Alors, cette leçon de sagesse, parce qu'elle prévient les hommes que c'est une folie, et je précise, je répète, une folie d'oublier Dieu. Alors vous n'êtes peut-être pas prêt à oublier le Seigneur, mais tenons compte quand même de l'information qui nous est donnée. Aucun roi de l'Ancien Testament n'a eu autant de succès, autant d'honneur, de richesse, de faveur qu'en a eu Salomon. Il y a eu des grands hommes dans la Bible. Des hommes avec une grande prospérité, je pense à David. Je pense à Ozias, qui a régné pendant 50 ans sur Israël. Je pense à bien d'autres, Ézéchias, qui ont été des hommes bénis. Joas, enfin, bon, je ne veux pas citer tous ces gens qui ont été illustres et qui ont eu du succès et qui ont eu des richesses. Mais Salomon a véritablement été au-dessus et bien au-dessus des autres. En France, on a coutume de dire, avec tout le prestige que cela évoque, le siècle de Louis XIV. On est très fiers, finalement, eh bien, de notre château de Versailles et puis tout le reste. Et on a appelé ce siècle-là le grand siècle. Alors ça, c'est une vue naturellement un petit peu arrogante ou tout simplement orgueilleuse. Mais ça n'a pas été que le grand siècle. Parce que vous demandez au monde protestant que c'est dans ce siècle-ci qu'il n'a jamais été autant persécuté par le roi dit soleil. Donc c'est notre expression que nous avons le grand siècle. En Israël, et par comparaison, les juifs, fiers de leur passé, pour ne pas dire très orgueilleux de leur histoire, évoquaient et disaient, quand ils parlaient de Salomon, ils disaient « au temps de Salomon ». Ce qui voulait dire que c'était... Jamais il y a eu autant de prospérité, jamais il y a eu autant de bénédictions, d'argent, et vous allez le voir, autant de choses qui, finalement, normalement sont censées rendre les hommes heureux, sont censées d'apporter la satisfaction et le bonheur. Et c'était une époque sans précédent de faste, d'éblouissement. Et avec le règne de ce grand roi, d'ailleurs on a parlé de la ville du grand roi qui est Jérusalem, naturellement. Alors, avec ce règne de Salomon, la nation élue, la nation d'Israël, était parvenue, nous pouvons l'estimer ainsi, au fait de la magnificence de sa puissance. Et quand on pense à Salomon, il ne s'agissait pas seulement d'un royaume, mais d'un empire. Et qui aurait pu être encore beaucoup plus grand et élargi si, au moment de la conquête d'Israël, les Israélites ne s'étaient pas, dans le pays de Canaan, s'étaient pas limités finalement, parce que Dieu leur avait dit, eh bien, votre territoire sera d'ici, il sera de là, il sera de l'Orient à l'Occident, ça sera quelque chose de formidable. Ça, c'était la possibilité que Dieu avait donnée, c'était dans le plan de Dieu. Mais les hommes, toujours en deçà de la foi, ont été véritablement, eh bien, là, restés dans les limites qu'ils se sont données eux-mêmes. Mais Salomon lui a poussé les choses, et il a presque atteint cet idéal que Dieu voulait, en quelque sorte, sur le plan territorial, naturellement. Il faut bien dire qu'à la différence du règne de David, pendant une quarantaine d'années, Salomon a instauré la paix. Et ça, dans le monde d'alors, comme dans le monde d'aujourd'hui, 40 ans de paix, sans guerre, sans rien du tout, sans conflit. Et le commerce était intense, à tel point que les affaires allaient par tout le monde connu d'alors, à partir d'Israël, de Jérusalem. Il y a eu l'édification de ce grand temple en l'honneur de Dieu, dont nous entendons et nous lisons souvent eh bien, le récit. Salomon s'est fait un palais royal, hein, c'était tout simplement la maison de la forêt du Liban, tout en bois, lambrisé. C'était quelque chose d'extraordinaire, avec de l'or, avec de l'argent. Et cette maison de la forêt du Liban a été construite en 13 ans. Imaginez-vous l'investissement, hein, le travail qui a été pour les ouvriers, enfin, des choses comme ça, les côtés artistiques, hein, tout ce qui pouvait être la caractéristique de ce grand règne. La royauté a été affermie pendant un certain temps, en tous les cas. Pendant très longtemps, elle a été affermie. Et puis, il y avait une puissance militaire, c'est que personne n'osait toucher à Salomon et à Israël. Ça, c'est un peu le récit. Au lieu de vous lire tout le récit des deux chapitres, je préfère vous faire le commentaire brièvement, ça rappelle un petit peu tout ça, parce que c'est dit. Il nous est dit que à un moment donné, le roi rendit l'argent aussi commun que les pierres à Jérusalem. Ça fait sourire, hein ? Quand même. Hein ? Que les pierres à Jérusalem. Alors, quand vous savez qu'au Moyen-Orient, il y a quand même pas mal de pierres, hein ? L'intifada est là pour nous le rappeler. On s'aperçoit que ça devait être une prospérité à faire pâlir nos économistes d'aujourd'hui, hein ? Parce qu'ils cherchent l'argent. Hein ? Et là, bon, il y en avait en tous les cas. Et sans parler de l'éblouissement artistique et le rayonnement intellectuel qui s'est immortalisé à travers les psaumes, à travers les proverbes, à travers le livre des Cantiques et des Cantiques, à travers le livre de l'Ecclésiaste. Tout ça, c'est la même histoire, c'est la même époque. C'est ça le règne de Salomon, c'est ça le règne du grand roi. Dans, si vous voulez, une petite vue, un petit aperçu, bref, dans un roi, je voudrais simplement vous dire un peu ce que ça pouvait être. Imaginez-vous ce royaume à cette époque. Le faste, la magnificence, la richesse, la dimension intellectuelle, hein, tout ce qu'il pouvait y avoir, la culture. Eh bien, dans un roi, chapitre 4 et au verset 29, je voudrais le lire quand même. Il nous est dit ceci. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et la connaissance et des connaissances multipliées comme le sable qui est sur le bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étam, les Rachites, plus qu'Éman, Carcol et Darma, les fils de Marcol. Ils ont disparu, hein, sinon qu'ils sont écrits dans la Bible, c'est tout. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de la sagesse de Salomon. Et je poursuis et je dis et je rappelle, Jésus dira, il y a ici plus que la sagesse de Salomon. Souvenez-vous, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Vous avez remarqué que dans la dernière lecture que je viens de faire, elle commence par « Et Dieu donna à Salomon ». C'est Dieu qui a donné à Salomon. Le roi devint pour les autres, pour ses concitoyens, et pour ses contemporains de toute nation, il est devenu une aide. Il est devenu un modèle. Il est devenu un exemple. Il est devenu une bénédiction. Il est devenu un témoignage de renommée, on pourrait dire aujourd'hui, mondiale. À tel point qu'au chapitre 10, verset 1er, la reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Alors là, il y a eu quelque chose qui nous ramène au texte que Jésus, que nous avons lu tout à l'heure. Il nous est parlé de la reine de Saba. Comment cette grande reine de ce pays si lointain a-t-elle pu apprendre l'éclat d'Israël et de son roi ? Elle a mené une expédition. Elle est venue certainement avec une grande partie de sa cour. Elle avait entendu parler de cet homme. Et elle se disait, mais c'est quelque chose de formidable. Parce que non seulement, eh bien, il avait des capacités pour diriger le pays, de la sagesse, mais il y avait là quelque chose qui éblouissait autour de lui. Alors, Comment avait-elle pu apprendre tout cela? On sait que Salomon a fait des expéditions dans le monde entier, enfin le monde connu d'alors naturellement, des expéditions maritimes à Ophir, à Séla. C'était la région de ce que l'on a appelé par les historiens l'Arabie heureuse, les contrées du Yémen, toutes ces questions, la pointe, la corne de l'Afrique, où il y avait des richesses aussi, toutes sortes de produits qui remontaient vers Israël. Et certainement qu'à travers le commerce, eh bien, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, les communications, les informations, tout passe à travers cela. Alors pour identifier l'histoire, justement Jésus, pour dire que c'est une histoire qui n'est pas un rêve, parce que Jésus n'aurait jamais raconté des histoires fabuleuses, s'il parle de la reine de Séba et de Salomon, c'est que Salomon a existé, et la reine de Séba a existé aussi, et que Jésus n'aurait jamais emprunté quelque chose qui aurait été faux, ou tout simplement quelque chose de légendaire. Alors, pour authentifier l'histoire, Jésus citera la fabuleuse rencontre de la reine du Midi avec Salomon, qui avait entrepris ce long voyage, ce difficile voyage, non dans un but politique, parce qu'il y avait à peu près plus de, 2000 kilomètres, mais simplement pour voir et entendre. Voilà, c'est ça ce qui l'intéressait. Pour voir et entendre cette prétendue sagesse d'un homme qui recevait les choses de Dieu, qui les recevait d'en haut. Jésus comparera, dans un autre passage que vous connaissez bien, qui s'appelle le Sermon sur la montagne, Jésus comparera les lys des champs à Salomon dans toute sa gloire. Alors Salomon a disparu, les lys sont restés, il suffit de voir, hein, il y a des lys dans les champs. Et il va donner une image. Et il le fera naturellement, il intégrera ça par rapport à nos inquiétudes. Pourquoi vous inquiétez du boire et du manger, des vêtements que vous allez porter, de la maison que vous allez habiter, de la réputation que vous allez avoir et tout ça? Regardez les lys des champs. Je vous dis qu'ils sont encore mieux vêtus que Salomon dans toute sa gloire. Une leçon au passage qui est donnée. Et Jésus rendra témoignage à lui-même par rapport à cela. Il dira à Salomon, oui, mais vous avez ici plus que Salomon. Et on va avancer dans cette méditation, vous allez voir que ce qui est important, ce n'est pas tant ce que nous avons sur la terre que ce que nous possédons au ciel. Et que ce que nous avons dans la personne de Christ, parce que avec Jésus, nous avons plus que tout le reste. Nous avons plus que tout le reste. Alors Jésus rendra témoignage à lui-même par des paroles un petit peu déguisées. Il y a ici plus que Salomon, ça veut dire ce que ça veut dire. Et il affirmera à la face des Juifs incrédules que finalement il est plus grand que tout, lui Jésus. Même s'il y a eu un grand roi mémorable, fameux dans l'histoire, qui a fait la gloire d'Israël, qui a fait la puissance d'Israël, certes disparu, mais néanmoins il y a quelqu'un de permanent qui est là et qui peut apporter finalement tout ce que notre cœur désire et ce que notre âme aspire dans le meilleur. Dans la Bible, la visite de la reine de Séba est le type des hommages que tous les païens rendront un jour au roi suprême, au Messie et au Sauveur. C'est un type, en quelque sorte. Parce que vous savez que la parole de Dieu nous dit que les hommes fléchiront le genou devant Jésus-Christ. Oui, tout genou fléchira devant la seigneurie et la souveraineté de Jésus-Christ. Ça vient. Pour l'instant, les genoux sont raides. Je ne sais pas si c'est l'arthrose qui fait ça. Enfin, en tous les cas, quoi qu'il en soit, les hommes ne sont pas prêts de fléchir les genoux devant Dieu. Hein. Certainement. Mais ça viendra. Et pour nous rappeler qu'il y a ici plus que Salomon. La gloire céleste. La gloire terrestre. Et cette gloire terrestre, c'est ce que nous apprend notre méditation, fait souvent tomber les hommes. Y compris cet homme exceptionnel qui s'appelait Salomon. On va le voir, et il faut beaucoup de sagesse pour contenir la gloire. On rêve de gloire, les hommes rêvent de gloire. Si j'étais, si j'étais ceci, si j'étais cela, eh bien, on a bien des aspirations au fond de nous-mêmes. Mais quel est l'homme capable de contenir cette gloire? Parce que Elle peut faire beaucoup de dégâts, cette gloire. Je voudrais souligner une note importante. Il est écrit « La renommée que Salomon possédait à la gloire de l'Éternel ». Donc, il avait une gloire. Mais vous remarquez que s'il y a cette petite annotation, c'est qu'elle n'était pas tant pour lui qu'à la gloire de Dieu. Et ça, c'est un petit peu notre position. Que quelques attributs, quelques prérogatives, quelques dons que nous ayons reçus, quelques capacités, quelques talents que nous possédions, eh bien, il ne faut jamais oublier, mes frères et sœurs, que ce n'est pas pour nous, mais que c'est pour la gloire de Dieu. Parce que si nous ne comprenons pas ça, eh bien, ce que nous avons reçu, même si c'est Dieu qui nous l'a donné, eh bien, non seulement nous allons le perdre, mais ça va nous détruire. Ça va nous détruire. La renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, en d'autres termes, le prestige de Salomon, était étroitement lié à la gloire du nom de Dieu et envisagé comme un effet de la faveur particulière de Dieu sur sa vie. Mais nous avons beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Quelquefois, on se dit, mais j'ai rien reçu à la distribution. Mais non, nous avons chacun quelque chose reçu. Hein, le salut, le pardon, ça c'est quelque chose de commun. Mais nous avons aussi des dons particuliers. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier que tout cela nous a été donné par, eh bien, dans l'amour que Dieu nous manifeste pour nous, à chacun d'entre nous. Mais c'est toujours un effet de sa grâce et de sa faveur. Mais faisons attention de la manière dont nous envisageons les choses. Et c'est bien toute la leçon. Et quelle responsabilité de ce privilège qui est le nôtre. Quelle responsabilité. Jésus nous dit également dans le sermon sur la montagne, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Et dans notre position d'être sel et lumière, et dans cet état présent de disciple, nous pouvons ajouter, eh bien, n'est pas tant d'être reconnus nous-mêmes, mais surtout de faire reconnaître Jésus et sa gloire. Et c'est ça aussi, parce que Dieu nous a choisis, il nous a appelés, il nous a donné tout ce qui contribue à la foi et à la piété, afin que nous portions des fruits, attention, que nous portions des fruits, que véritablement sa vie, eh bien là, transcende la nôtre, et que s'il y a quelque chose à dire de ce que le frère untel ou la sœur untel est, hein, d'une manière ou d'une autre, ici en présence des autres chrétiens ou à l'extérieur, c'est que nous soyons reconnus non pas pour nous-mêmes, mais que nous soyons reconnus pour être chrétiens et comme véritablement être disciples de Jésus-Christ. Et ça, c'est une autre affaire, parce que on peut toujours s'approprier très facilement quelques petites bribes de distribution venant du ciel et de dire, eh bien, c'est à moi, c'est à moi. Dans 2 Thessaloniciens, pour nous montrer que nous sommes porteurs d'une image, porteurs de communicateurs, finalement ambassadeurs d'un royaume, alors il est dit dans 2 Thessaloniciens, c'est Paul qui le dit, lorsqu'il reviendra pour être en ce jour glorifié dans ses saints, donc dans les chrétiens, et admiré dans tous ceux qui auront cru. C'est ça ce que nous sommes ici dans cette ville de Saint-Nazaire, les uns et les autres, dans notre région. Un chrétien n'est pas fait pour autre chose. Il est fait pour être vu et reconnu, pour être avec Jésus et que Jésus est en lui. Devant les hommes, quelle image rendons-nous de la personne de Jésus, de notre foi? Est-ce que nous donnons envie aux autres? Est-ce que nous donnons envie aux autres surtout de se poser des vraies questions? De leur donner envie, finalement, de devenir chrétien? Y a-t-il dans nos vies quelques reflets, quelques marques, quelques attirances qui font reconnaître, eh bien, notre vie comme de véritables chrétiens, pas des chrétiens de nom, mais de véritables chrétiens? Ou est-ce que c'est le contraire? Alors nous sommes porteurs d'un message, nous sommes porteurs d'une image, d'un nom, nous sommes héritiers virtuels d'un royaume et d'une gloire éternelle. Et c'est pourquoi nous sommes finalement les ambassadeurs d'un royaume dont le roi, nous le connaissons, qui est beaucoup plus que Salomon. Dieu, comme à Salomon, eh bien, je l'ajoute, nous a donné sa bénédiction. Il nous a donné sa faveur et il nous a donné ses richesses. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire de tout cela? Et qu'allons-nous en faire? La question. On connaît les débuts pleins d'humilité du jeune prince Salomon à la mort de son père, le roi David, lorsqu'à Gabaon, Eh bien, Salomon réclama à Dieu dans une prière extraordinaire, vous la connaissez, on l'a souvent commentée, tout ce qui lui était nécessaire pour mener sa vie droitement, privilégiant, eh bien là, la vie spirituelle, la justice et la vérité. Vous connaissez cette prière. À un moment donné, Salomon a une vision et Dieu lui a dit « Demande-moi ce que tu désires ». C'est assez étourdissant. Et Salomon, au lieu de demander la mort de ses ennemis, au lieu de demander des richesses, au lieu de demander de la sagesse, enfin, au lieu de demander de toutes sortes de choses purement matérielles, il a dit « Seigneur, eh bien, moi, je te demande que tu gardes mon cœur dans l'humilité et que tu me donnes un esprit qui me permette de conduire avec justice et dans la vérité ce peuple grand et innombrable. » Et comme Dieu a entendu cette prière, il lui a dit, puisque tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, puisque tu ne m'as pas demandé des richesses et ceci et cela, ce que, humainement parlant, eh bien, tout homme est capable de demander, eh bien, Dieu lui a dit, je vais te donner la sagesse, je vais te donner l'intelligence, je vais te donner tout ce que tu as demandé de ces valeurs et de ces trésors moraux et spirituels, et je te donnerai le reste par-dessus tout. Vous connaissez ce que Jésus dit? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. C'est formidable ça, hein? Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait toujours se souvenir. Et c'est ce que Salomon a fait. Enfin, il l'a fait pendant un temps, en tous les cas. Et c'est peut-être justement le problème de commencer et le problème de finir, d'aller jusqu'au bout. Et pourtant, Salomon est tombé et il n'a pas pu parvenir jusqu'au terme. Malgré toute la provision de grâce qui était sur lui, on s'aperçoit que Salomon a oublié Dieu et... il s'est enfoncé progressivement, après quand même un certain temps où il a marché droit, dans le marais de la confiance en soi, celui ensuite de la désobéissance, parce que l'un ne va pas sans l'autre, pour finir, dans une ambition impie et dans la sensualité la plus choquante. C'est ça l'histoire de Salomon. Il nous est dit de ne jamais juger, finalement, par le commencement des choses. Hein? Il faut toujours voir la fin, comment une vie se termine, comment une entreprise se termine, comment, eh bien là, quelque chose qui a été mené, mais comment ça se termine, comment ça se finit, ça c'était important. Le problème de Salomon n'était pas autre que celui-ci, il est très simple à comprendre, et nous sommes aussi à la merci de tomber dans le même piège, à travers deux choses, mais qui se rejoignent. C'est l'orgueil et c'est l'amour des dons reçus. Vous comprenez ce que ça veut dire? L'orgueil d'abord et l'amour des dons reçus. Quand on n'a rien, on n'a rien à se faire valoir ou à se faire prévaloir. Quand on commence à avoir des talents, quand on commence à avoir des dons, quand on commence à être applaudi par les autres, remarqué, demandé par les autres, alors à ce moment-là, eh bien, il y a un phénomène qui se passe, c'est que nous sommes en danger de donner la place à ce qui ne doit pas avoir sa place. Et c'est l'orgueil et l'amour des dons reçus en oubliant celui qui en est le donateur. C'est pour ça que nous avons introduit notre méditation. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais donne-moi ce qui m'est nécessaire, Seigneur. Donne-moi ce qui m'est nécessaire. Et tout cela a amené Salomon à mal employer ce que Dieu lui avait confié. On a tous reçu quelque chose, mais comment allons-nous le gérer? Comment allons-nous l'employer? Il y a des gens qui veulent le pouvoir, et quand ils ont le pouvoir, ils deviennent dictateurs. Il y a des gens qui désirent le succès, le triomphe, les applaudissements, parce qu'ils ont un don de chant, de musique ou autre chose, de peinture, enfin bon, tout ce que vous voudrez. Et à un moment donné, ça leur fait tourner la tête. Et ils ne sont plus sous l'inspiration des débuts. Ils sont sous une autre inspiration. Ils en perdent la tête. Ils deviennent suffisants par rapport à eux-mêmes et ils se perdent. Et combien, malheureusement, combien de grands hommes, d'artistes, de gens de distinction qui ont reçu quelque chose, finir soit dans la drogue, dans l'alcoolisme et dans le suicide, parce que ça leur a monté à la tête, tout simplement. Alors ne me donne ni richesse, ne me donne ni pauvreté, mais Seigneur, accorde-moi ta grâce. Et commençant parfaitement, Salomon a achevé son règne, qui a duré quand même, il faut bien le dire, 40 ans. C'est surtout dans les dernières années de sa vie que ça s'est passé, dans une faillite qui nous laisse réfléchir sur le comment nous allons conduire notre propre vie jusqu'au terme. Alors je vais vous dire comment ça s'est terminé pour Salomon. en morale, il a été perdu par l'extravagance de son harem. Et je vous dis pas, vous pourrez relire les textes, il n'était pas tout seul seulement. L'extravagance de son harem. En matière de foi, puisque c'était un homme de Dieu, en matière de foi, il a détourné son cœur de l'Éternel, et après avoir édifié le temple de Jérusalem, qui était certainement la plus belle et la plus grande réalisation de son règne, il a bâti des sanctuaires aux faux dieux. C'est triste ça. Il s'est fait des sanctuaires pour les idoles, en finance. Alors qu'il était fabuleusement riche, il s'est si bien ruiné qu'il a été obligé de céder à son créancier de Tyr, qui était le roi Hiram, qui lui avait fourni les cèdres du Liban pour construire son palais et le temple de Jérusalem. Il a été obligé de céder 10 villes de son royaume. C'était une catastrophe, ça. En politique, il a révolté à ce point son peuple et à ce point aussi Dieu, que sitôt après sa mort, le schisme a éclaté, démantelant son empire. Voilà la réussite de Salomon. Il était bien parti et il a mal fini. Il y a un proverbe malgache qui dit ceci, « Une pierre qui roule ne s'arrête qu'en bas de la pente. » Ouais. C'est logique, hein, c'est un phénomène de pesanteur, c'est un phénomène physique. Ouais. Une pierre qui roule ne s'arrête qu'en bas de la pente. Et c'est bien l'histoire tragique de Salomon. Et pourtant, quand il était jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Que n'a-t-il pas reçu de Dieu? La chute d'un croyant n'arrive jamais soudainement. Elle est le résultat d'un ensemble de choses accumulées, d'infractions, de désobéissances, qui un jour provoquent l'effondrement. Il y a 4 choses, petit à petit, qui ont contribué à la chute de Salomon, je les rappelle, puisque tout ça, c'est dans les 2 chapitres que je n'ai pas lus ce matin, le chapitre 10 et chapitre 11, mais 4 choses qui ont contribué à l'effondrement de Salomon, de son empire, de ce qu'il était lui-même. D'abord, c'est son matérialisme outrancier. Ouais, on vit dans des temps où aujourd'hui, il y a un slogan, c'est le pouvoir d'achat. Bon. Je passe là-dessus, mais la Samaritaine pourrait nous raconter de belles histoires. Aller puiser à son puits, un puits qui n'a pas de fond. Ça, c'est son matérialisme outrancier. Parce que finalement, il n'a rien lésiné, il a fait comme il pensait dans son cœur. Parce que quand on voit le prestige de son palais royal, je l'appelle, c'est la maison donc de la forêt du Liban, qui était faite avec tout ce qu'il y avait de plus riche qui pouvait être exploité, connu et mis en place sur la terre. Les boucliers d'or, vous savez, on en a parlé de cela, hein, 500 boucliers en or pour décorer sa maison. Son trône d'ivoire était recouvert d'or pur, et il y avait 7 marches, où trônaient des lions en or de chaque côté de chaque marche. On peut dire qu'il y a eu un transfert d'affection spirituelle vers le matériel, vers les choses qui appartiennent à la terre, tout simplement. La deuxième raison qui a contribué à la chute de Salomon, c'est sa passion des chevaux. Alors vous allez me dire, ben oui, mais c'était un homme. Parce que vous savez, les chevaux à l'époque, c'était comme les belles voitures aujourd'hui, hein. Or, lui, il ne se contentait pas de... Non. Avoir un cheval de race, c'était quelque chose de prestigieux. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des ventes de chevaux, là, en Normandie, qui font venir les richissimes du monde entier, ce qu'on appelle les yearlings. Et c'est vendu une fortune pour aller dans les compétitions du monde entier. Et ça, c'était... La passion du cheval pour Salomon, c'était véritablement comme quelqu'un qui se paierait... Je connais même pas le nom des voitures qui ont dû... Moi, je me contente d'une Fiat. Enfin, bon, peu importe. Mais toujours est-il que je suis content, quand même. Alors, c'était en infraction avec une parole de Dieu, pour vous dire que c'est quelque chose d'important qui se reporte aussi dans notre génération. La passion du cheval comme la passion des belles réalisations mécaniques, on pourrait dire. Regardez dans le livre de Deutéronome, au chapitre 17, il est dit que le roi qui règnera sur Israël n'aient pas un grand nombre de chevaux, et qu'ils ne promènent pas, qu'ils ne ramènent pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas par ce chemin-là. Et il y avait des convois entiers qui étaient délégués, qui étaient mandatés par Salomon, entre Israël, entre Jérusalem et l'Égypte, pour faire amener des quantités de chevaux et les plus beaux. Et ça, c'était sa passion quelque part. Et c'était la passion d'un homme, comme on peut avoir la passion d'autres choses, de belles choses, de notre société, de notre civilisation aujourd'hui. La troisième chose, c'est la sensualité de Salomon. Il y avait le prestige, mais le prestige s'accompagne aussi de la convoitise. Et quand on est roi, qui peut nous refuser quelque chose? Hein? Et il était roi. Et c'était la convoitise et une vie facile. À tel point que dans le chapitre 11 de notre texte, je lis simplement un petit article au chapitre 4 et vous verrez les conséquences. Moi, je ne veux pas passer sur le nombre de femmes qu'il avait dans son harem, mais je veux dire les conséquences. 1 roi 11, chapitre, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu comme l'avait été le cœur de David son père. Et pour poursuivre, il est dit... Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père l'avait fait. Alors Salomon bâtit dans la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Et verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon. De l'immoralité, il n'y a plus qu'un pas vers l'idolâtrie. Vous voyez ça? C'est toujours... C'est comme un escalier, ça. Ça monte ou ça descend. Mais là, ça montait, mais ça descendait, ça montait pour redescendre brutalement. Et de l'immoralité, il est tombé dans l'idolâtrie. C'est ce que nous avons lu à travers ce texte. Et quand les sentiments ne sont pas réglés par une volonté d'obéissance ou de demander le secours à Dieu, de dire « Seigneur, eh bien, aide-moi » parce que, vous connaissez la parole, hein, l'esprit bien disposé mais la chair est faible. Alors je crois que Salomon, là, dans tout ça, il y avait longtemps qu'il avait probablement oublié cela. Et comme ce n'était pas régi en lui-même par une volonté d'obéissance, eh bien tout cela l'a conduit, toutes ces choses l'ont conduit à renier Dieu. Et la conséquence, ça a été la confusion, l'amalgame et l'apostasie. Vous savez ce que c'est que l'apostasie? Ça veut dire tout simplement le rejet de la vérité. Et il en est tombé là, Salomon. Alors, on reprend un peu plus loin pour voir les conséquences. Et au verset 11 de notre texte, il est dit ceci à un moment donné, que je retrouve cette parole. Voilà, c'est Dieu qui va lui parler. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, vous avez remarqué, c'est pas ton fils, hein, c'est ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'était la main de ton fils que je l'arracherai, ton serviteur, ton fils, mais ça a été le schisme. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Dans de telles conditions, on ne peut se maintenir dans la bénédiction. Je l'ai dit, et je le répète, il n'y a pas longtemps que je l'ai dit encore, que Dieu pardonne tous les péchés, mais il ne peut pas bénir une désobéissance. Voilà. Dieu pardonne tous les péchés, quels qu'ils soient. Et là, nous pouvons être assurés du pardon de Dieu. Mais il ne peut pas bénir une désobéissance. Il ne peut pas bénir une désobéissance parce que c'est une désobéissance, tout simplement. Il ne va pas aller contre la parole qu'il a donnée. Il va faire tout en son pouvoir pour essayer de nous arracher à cette désobéissance. Pardonner le péché qui est consécutif à la désobéissance. Mais il ne pourra pas donner une bénédiction sur ce qui est une désobéissance. Ce n'est pas possible. Et vous avez remarqué, Dieu va lui dire, « Je déchirerai le royaume. » C'est un bouleversement politique dont l'origine cachée est un péché spirituel. Ça a toujours été comme ça en Israël. Hein. Chaque fois qu'il y avait des choses qui n'allaient plus, eh bien... ça se détraquait un peu de tous les côtés. et la punition correspond à la faute, c'est-à-dire que en légitimant, parce qu'il était le roi, en légitimant les cultes faux et les cultes d'idoles, les cultes étrangers, Salomon avait, sans s'en rendre compte, déchiré le sentiment religieux. Il avait touché la conscience religieuse d'Israël, de son peuple. Lui, il faisait ce qu'il voulait, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il était roi, et à partir du moment où il avait autorisé toutes ces choses, ses idoles, d'avoir diversifié toute cette panoplie d'occultisme et tout cela, bien qu'il savait qu'il ne fallait pas le faire, alors à ce moment-là, il a déchiré le sentiment religieux, la conscience des Israélites. Et on n'a pas le droit de toucher à la conscience des autres. Nos affaires personnelles, c'est une chose, c'est notre affaire avec le Seigneur, mais Salomon a été trop loin. Il a été trop loin. Et en déchirant ce sentiment de son peuple, eh bien, il a amené une catastrophe. Déchirure pour déchirure, son règne prestigieux va s'écrouler lamentablement. En conclusion, simplement. La conclusion de notre méditation. Bien commencer et mal finir. Il n'appartient qu'à Dieu de juger, hein. Mais c'est quand même une réflexion. Et dans le même et triste exemple, nous avons l'histoire de Samson. Ça a été raconté hier aux jeunes. L'histoire de Samson qui était taillé comme un colosse. Et qui, pourtant colosse qu'il était, a été enseveli sous les ruines de sa vie dans le temple des Philistins. Et pourtant, il avait tout reçu, Samson. Quand on pense également à Géasi, qui jouissait de la pleine confiance d'Élisée, son maître, le prophète, et qui sera pris dans les liens de son mensonge. Il aurait pu être autrement. Vous vous rendez compte? Élie, Élisée, Géasi. Élisée a pris la succession d'Élie, pourquoi pas Géasi pouvait prendre la succession d'Élisée? Mais non, à cause d'une chose dans sa vie, c'est qu'il était menteur. Et il mentait. Et je crois qu'il ne faut pas qu'un chrétien soit un menteur. C'est pas possible. Vous dites, et puis c'est tout. Mentir. Ça, je crois que c'est quelque chose qui passe souvent sous couvert, mais on ne ment pas quand on est chrétien. Même pour notre intérêt, même pour se défendre de ceci et cela, vaut mieux dire la vérité, et puis c'est tout. Ben voilà, c'est comme ça. Et vous en aurez beaucoup plus d'estime, hein. Même si quelquefois le mensonge, et si à chaque fois le mensonge n'est pas beau, en tous les cas, vous attirez quand même au moins l'estime des autres pour avoir dit la vérité. Mais après, quand on aperçoit que quelqu'un a menti, on se dit, mais c'est pas vrai, hein. Et vous savez, il y a la peur du mensonge, hein. Et il y a le mensonge de la peur. Ce sont des phases, des façon de penser les choses. Il y a Judas qui tenait les clés de, enfin, qui tenait les cordons de la bourse, qui va se suicider de désespoir. Lui aussi, il était promis à quelque chose de formidable. On a vu quelquefois des évangélistes qui avaient des dons, qui avaient des talents, qui avaient une diction, qui avaient un pouvoir oratoire, qui pouvaient faire des choses extraordinaires avec des centaines, des milliers de personnes et amener des gens à la conversion. Et à un moment donné, ils sont tombés dans des trucs complètement aberrants. Et tout cela parce que, bon, l'orgueil. Le don reçu les a complètement éliminés. Vous savez, quelquefois on dit, Seigneur, envoie-nous des dons, envoie-nous des grandes choses, fais-nous voir des choses surnaturelles et miraculeuses. Eh bien, vous savez, moi je dis que le Seigneur est sage. Il est sage pour moi, il est sage pour vous, il est sage pour beaucoup. Parce que, est-ce qu'on est capable de contenir cette puissance? Et l'apôtre Paul le dit bien, que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Eh oui. Et quelquefois on dit, Seigneur, mais envoie les dons, on soupire après ceci et cela. Bien, moi, j'ai souvent vu, malgré tout, on l'a appris hein, par les biographies et tout ça, qu'on a souvent vu que les réveils qui partent très bien et magnifiquement, quelquefois, vous savez, le diable s'ingère dedans et ça se termine en queue de poisson. Ouais. Je voudrais pas vous décourager, mes frères et sœurs, hein, mais il faut bien penser que nous sommes d'argile et que nous sommes fragiles. Regardez un homme comme Salomon. Seigneur, garde-nous. Ne me donne ni richesse, ne me donne ni pauvreté, mais garde-moi dans l'humilité. Et moi, garde-moi dans ta dépendance de ton esprit, Seigneur. Ah ouais, parce qu'on peut souffler, hein. Je pourrais faire une autre prédication ce matin. Je pourrais vous dire, mais avec le Seigneur, c'est la toute-puissance, c'est la gloire. Ceci, cela, on va gesticuler, on va faire toutes sortes de choses. Je pourrais vous tenir ce langage. Je peux le faire, hein, ça c'est sûr. Mais moi, je ne veux pas vous tromper, mes frères et sœurs. Je vais simplement vous dire qu'il y a des exemples dans la Bible où il faut rester dépendant de Dieu, tout simplement. et nous blottir entre les mains de Dieu, parce qu'on n'est pas si fort qu'on le pense. Et particulièrement avec le milieu dans lequel nous sommes, les milieux de Pentecôte, les milieux des charismes, des dons spirituels. Faisons attention à tout cela. Autrement, on risque d'être rayé de la carte après avoir marché pour le Seigneur, après avoir servi le Seigneur, et puis il ne restera plus rien du tout. Ce n'est pas le but. Le but de l'appel de Dieu, c'est notre salut éternel. Quelle leçon à retenir, et je finis. Alors quand je dis je finis, c'est que je vais bientôt finir. Il y en a des choses à dire. Quiconque reçoit des dons s'enorgueillit plutôt qu'il ne veille à les entretenir. C'est ça le problème. Merci Seigneur, bon, je sais ou je ne sais pas que tu m'as donné ceci et cela. Il vaut mieux que ce soit les autres qui le voient, que moi que je le sache. Parce que ça tient un petit peu dans la modestie. Toute facilité comporte un risque et la tentation se cache derrière les situations avantageuses où l'on croit tout se permettre. Ah oui, parce que je suis ceci, parce que je suis cela, parce que Dieu m'a donné cette passibilité, cette capacité, ce talent. Alors à un moment donné, on se dit, parce que j'ai reçu ça, je peux tout me permettre. Eh, c'est ça la question qui est le problème, la problématique, elle est là. Et j'ose le dire, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est au-dessus des autres. Ah, peut-être que vous avez entendu un autre langage, mais moi je vous dis, pour moi, et on en parle souvent avec mon épouse, on n'a aucun droit. Sinon le droit d'être un enfant de Dieu et puis de contribuer à servir les autres, c'est tout. Parce que quelquefois, il y en a qui se prennent la tête avec seulement la fonction et le nom de pasteur. Ben, vous savez, ça ne fait pas rêver. Moi, je voudrais vous le dire. Ça ne fait pas rêver. Je suis pasteur, alors bon, voilà, j'ai telle ou telle position. Mais on n'est rien. Et moi, il y a quelque chose qui mérite de ce côté-là, parce que on n'a rien. Ce que l'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Il faut bien que ce soit compris, il faut bien que ce soit entendu. On n'a pas besoin de bomber le torse en disant, voilà, mon titre, pasteur, ceci et cela. Je suis un révolutionnaire, vous avez remarqué. Bon, j'arrive bientôt à la retraite. Alors, c'est parce que c'est de l'orgueil derrière. Parce que c'est l'homme dans ce côté charnel qui veut avoir quelque chose vis-à-vis des autres, être reconnu vis-à-vis des autres. Alors, et même s'il n'y a pas d'appel au ministère, même s'il n'y a pas de ministère don, alors on veut être à cette place-là parce que c'est ceci et cela. Mais mes amis, ce qui est important, c'est ce que l'on est devant Dieu, tout simplement. Et on n'a pas besoin de surfaire, on n'a pas besoin de jouer la comédie pour dire, eh bien voilà, je suis ceci et cela. Je vous dirais que, vous savez ce que l'on est et ce que je suis? Je suis qu'un homme, c'est tout. Et puis le Seigneur est au ciel, c'est tout. Alors, il ne faut jamais oublier que tout homme a en lui quelque chose qui s'appelle le péché, qui le pousse à réaliser la plénitude de ses désirs et ses convoitises, à atteindre toute la mesure de ses possibilités naturelles, à satisfaire ses ambitions, à les assouvir, et puis à devenir tout simplement un homme charnel et instinctif. Mais ça, nous l'avons. C'est comme ça que nous avons été faits. Mais il y a un ingrédient à l'intérieur de nous-mêmes qui s'appelle le péché, qui peut nous emmener très 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 loin. Et ça, faut pas l'oublier, tout simplement. Faut pas l'oublier. Si nous relâchons notre vigilance, c'est pourquoi Jésus dira à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, ce qui nous arrive. Nous nous donnerons mille excuses pour justifier nos faiblesses et les passions refoulées que nous croyons mortes parce que nous sommes passés par la nouvelle naissance. Le vieil homme, il est mort. Vous croyez qu'il est vraiment mort, le vieil homme? Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier soupir, il sera là encore pour nous titiller. Ça, je voudrais quand même vous prévenir. On est né de nouveau, on est repenti. On est passé par la conversion en Jésus-Christ, on lui a donné notre vie, on s'est fait baptiser, on a fait tout le parcours. Mais jusqu'au dernier moment de notre vie, jusqu'au dernier souffle, eh bien le vieil homme sera encore là. Et on se bat contre lui. On est bien d'accord? Non, vous connaissez le vieil homme? Non, ça n'a pas l'air. Vous le connaissez trop bien, je suppose. Mais il est toujours là. Et Salomon, lui, il avait cru que s'il était un homme nouveau, parce qu'il était roi et puis il était tout le reste. Alors à ce moment-là, nous croyons que toutes ces choses ont été assoupies. On croyait qu'elles étaient mortes, mais elles étaient simplement en sommeil. Alors prenons garde que la vie nous flatte par quelques avantages et nous endorme sous ses caresses, au point d'éteindre les scrupules de notre conscience et de passer comme Salomon de la gloire à la décadence et de la décadence à l'état rétrograde. Tout simplement. Il y a un impératif, mes frères et sœurs. Les péchés sont multiples, mais il y a un impératif. Cet impératif, il porte un nom. Fidélité. Fidélité. Ça vient du mot foi, hein. Fidélité, foi en anglais. Dans Luc chapitre 12, il est dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera beaucoup de celui à qui on a davantage confié. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est dit « Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » L'histoire de l'Église est pleine de situations, de chutes, de ruines, toutes sortes de choses. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes au-dessus des autres. Pas parce que nous avons une place, une position, que nous prêchons, que nous chantons, que nous faisons ceci et cela. Ah, rien du tout, ça ne rentre pas en ligne de compte. Non. Ça, c'est peut-être les hommes qui se promotionnent, qui se disent, eh bien voilà, je suis ceci et cela, mais ça ne rentre pas en ligne de compte. J'ai trouvé une petite parole cette semaine, qui est un petit peu la moralité, si vous me permettez. C'est que la Bible ne nous dit pas de nous extraire du monde. Elle nous demande seulement de fuir le mal. Mais pas de nous extraire du monde, mais de nous approcher de Dieu. De nous approcher toujours, toujours et davantage du Seigneur. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alors que le Seigneur vraiment nous fasse grâce ce matin à travers cette parole exhortative et qu'il nous garde. Oui, Seigneur, donne-nous véritablement ni richesse, ni pauvreté, mais garde-moi dans l'humilité, garde-moi dans la modestie, et puis, surtout, permets-moi que je ne jamais ne confonde les dons et le donateur. Le donateur, c'est Dieu, je l'adore, je le bénis, il est mon Père céleste, j'ai foi en lui, j'ai mis toute ma vie et ma confiance en lui. Mais Seigneur, permets que les dons deviennent supérieurs à ce que tu es, toi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Merci beaucoup.